Oui, mais alors, donc, tu passes les années de marketing du tout, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, et pour le faire de manière très caricaturale, peut-être déplaisante, je dirais que moi je distingue le producteur artisanal de celui qui, je veux dire, producteur industriel, qui travaille à grande échelle avec des gros volumes à écouler. Et je pense que la problématique est différente. Alors, puisqu'on nous dit, vous êtes économiste, c'est vrai qu'il y a une émotion dans le capitalisme, c'est la notion d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, qui a des audaces. Je crois que du côté de l'artisan, cette audace, elle du vigneron, de l'artisan, elle doit être de coller à la réalité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher à se vendre, il doit chercher à vendre ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est la question, on peut garder son originalité et son identité. Ça ne veut pas dire que c'est facile, bien évidemment. Et aujourd'hui, en plus, non seulement il a intérêt à avoir cette approche, mais il faut faire un effort de communication. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est encore autre chose en termes de dépenses, d'investissements. Mais je crois que pour lui, l'audace de l'entrepreneur et sa façon de trouver des marchés, parce que c'est ça finalement. Hein. Quand on dit nécessité de satisfaire le marché, c'est comme si le marché, on ne le crée pas. Hein. Donc, lorsque le marché se passe sur une étendue telle qu'il faille, disons, aborder une autre problématique que je vais voir ensuite, je pense que c'est une force d'identité qui fait qu'on peut, on garde ses savoir-faire, on garde sa philosophie et on vend, mais il faut la vérité, la transparence. Je pense qu'en France, on a intérêt à jouer la carte des signes de qualité, puisqu'on les a inventés. Ce serait dommage. Hein. On a inventé beaucoup de choses qu'on a laissées aux autres. Je ne dis pas qu'on abandonne les signes de qualité, surtout pas à Bordeaux, où les appellations, quand même, sont un rôle fondamental. Mais je pense que partout en France, il faut, même lorsqu'on est un petit producteur comme ça, qui a son originalité, sa philosophie, qui fait valoir sa propre approche, je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur les signes de qualité. Et puis, une certaine rigueur, comme on dit, soit dans notre manifeste, les vignerons d'Europe, les vignerons, ils sont dit, ça c'est qu'ils disent, et qu'ils disent ce qu'ils font, c'est quoi. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ont. Bon. C'est pas si simple que ça, mais en tout cas, c'est la ligne un petit peu, disons, la matrice analytique de ce que doit faire ce producteur artisanal pour répondre à votre question, pour maintenir le savoir-faire. Bon, régionaux, je ne vais pas trop, parce que ça fait que, vous allez courir, c'est. C'est des pratiques auxquelles il est attaché. Hein. Alors ensuite, donc, puisque j'ai dit que je le faisais de manière un petit peu caricaturale, je pense qu'en fait, la grande structure, on ne peut pas créer des goûts, parce que les goûts sont créés d'une manière ultra complexe dans la société. Et ce n'est pas les marketeurs, ce n'est pas les producteurs, c'est quelque chose de cocktail complexe. Le facteur, donc je pense que le producteur qui est à plus grande échelle, il a plutôt tendance à suivre la demande et à l'anticiper. Anticiper, ça veut dire non pas l'influencer, mais avoir une structure à l'avance. Mais c'est plus sur les formes que sur le fond. Bon, mais même à l'intérieur de ce que j'ai appelé les grandes structures, il y a des grandes structures qui conservent des identités qui sont faites d'une addition de petites structures, et puis il y a des structures qui sont industrielles. Sont des logiques qui sont celles de l'industrie, on pourrait dire. Donc, c'est pas si simple que ça. Il ne peut pas y avoir une seule réponse à cette question. Mais je crois que les grandes structures ont la capacité de créer de la variété aussi. Mais bon.
Bon, je vous remercie. Je suis ravi d'être parmi vous. J'étais un vieux président. L'association de Zélogue Bordeaux m'a toujours tenu à cœur. Merci de m'accorder encore au vieillard la parole, de temps en temps. Alors, j'ai réfléchi à la réponse. Alors, je me dis, à partir de quand je vais démarrer. Alors, Burdigala, ça faisait un peu long. Alors, j'ai voulu partir du phylloxéra. Ça fait plus de 100 ans. Donc, ça fait une minute par décennie. C'est encore un peu court. Et brièvement, je vais essayer de donner quelques éléments sur ce qu'a été le vin de Bordeaux. Alors, le phylloxéra, c'est le bouleversement de l'encépagement du Bordelais. Alors, ce qui est très amusant, je suis un passionné de la littérature en pélologie du 19e siècle. Il faut se méfier de cette littérature parce qu'elle est remplie d'erreurs, elle est très erronée. Et il a fallu qu'il y ait un Allemand, qui est le docteur Frank en 64, qui a remis à jour, il a une édition de 64, où par exemple, je m'intéressais à Coliborné, il dit qu'il y a du Merlot. ce qui m'a interpellé, c'est qu'en 1885-90, on commence à réorganiser le vignoble bordelais. La Pétrus, par exemple, on est 100% de Merlot. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a apporté, c'est peut-être que ces pieds de vigne existaient, sachant que le Malbec était majoritaire. Donc, il y a un bouleversement de l'encépagement, il y a une simplification, un appauvrissement, et on a parlé de diversité tout à l'heure, il y a un appauvrissement. Donc, il se met en place ce que j'appellerais la matrice viticole, mais à l'époque, la matrice viticole, elle était largement dominante pour le blanc. Quand je commence ma carrière dans les années 60, on produit encore 60% de blanc, 40% de rouge, et la Gironde produit la moitié des AOC blancs de France, qui ne représente qu'un tiers de la valeur brute du marché des blancs en France. Ça veut dire qu'il ne valait pas très très cher. Donc, une évolution. Ensuite, il y a les gels de 56. Les gels de 56 qui vont encore apporter un élément climatique qui va apporter, après le phylloxéra, un autre bouleversement dans les comportements viticoles, dans le choix des cépages. Et il y a une grosse influence sur, par exemple, la plantation des cabernets et des cabernets dans des endroits non gélifs. Et il y a un paradoxe qualitatif qui va influencer certaines qualités de vin dans certaines régions. Ensuite, je passe rapidement sur les événements. On met très peu de vin en bouteille, je vous le rappelle, et à Bordeaux, on ne met en bouteille essentiellement des vins rouges que les bons millésimes et les bonnes cuves des bons millésimes. Et lorsque mon grand-père vendait du vin, à l'occasion d'un mariage, d'une communion, peu importe, d'une fête familiale, on venait acheter un vin millésimé, et la notion de millésime était une référence qualitative. On savait qu'on avait du bon vin, peu importe l'année, était mise en bouteille, elle était toujours bonne, donc c'était une référence. À la fin des années 60, on bascule et tout d'un coup, la production rouge devient majoritaire. Et pour arriver aujourd'hui, je vous rappelle, on est à 87% de rouge et 13% de blanc dans les liquoreux, quelque chose de près. Et donc, l'image du vin rouge et l'image de Bordeaux, c'est le vin rouge aujourd'hui dans le monde. Ensuite, en ce qui concerne les étapes que nous franchissons, il y a la grande crise de 73-74 qui révèlent le procès des vins Bordeaux. Et à la suite de cette grande crise, il y a la disparition du négoce traditionnel. Je ne citerai pas des noms, mais il y a une dizaine des maisons les plus importantes qui vont disparaître. Ce qui va créer un phénomène à partir du millésime 75, qui est considéré comme un millésime qualitatif, mais de petit volume, et à partir de cette année-là, l'ensemble de la propriété va mettre du vin en bouteille. Ce qui fait que la notion de millésime va changer à partir de cette année-là. C'est plus une référence qualitative, ça devient une référence climatique. Et, par exemple, 2003, c'est la canicule, les grands classiques, 85-2005, Les années anciennes me fascinent. Juste, tu m'accordes une minute pour je parle de la saga des millésimes. C'est fascinant, c'est que 45, jusqu'à 45, il y a eu un grand événement, c'est l'année de la victoire, et on a eu des touristes qui ont vidé nos caves. C'est un millésime de grande qualité, donc on met les vins en bouteille. En 45, on en trouve. Et c'est un phénomène historique qui a fait mettre les vins en bouteille. 55 est un millésime de très gros volume et très qualitatif. Et il était juste à la fin de la crise, les gelées 56 arrivent, ce qui fait que la plupart des grosses propriétés devront mettre du 55 en bouteille pour étaler dans le temps la commercialisation du vin. Et je vous ai parlé de 61 tout à l'heure, qui est le millésime charnière, où on met systématiquement les vins en bouteille. Donc, notion de millésime qui va être une image supplémentaire et qui va nous raconter une histoire climatique, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, à partir de la décennie, début de la décennie 80, il y a la progression de l'élevage, de l'élevage sous bois et de l'utilisation du bois neuf. C'est un grand événement et qui va se disperser d'une manière géographique. Ce n'est pas l'apanage uniquement des grands crus. Donc, on va introduire l'élevage dans du bois neuf. Dans les années 60-70, je peux vous dire qu'à Pétrus, quand on mettait 10-15% de bois neuf, C'était la gloire, on n'utilisait pas le bois neuf comme on l'utilise aujourd'hui. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que ce volet, si on a eu une maîtrise et on a eu beaucoup d'interventions sur le plan ontologique, si le volet œnologique a été utilisé comme outil, comme élément de progression, comme maîtrise de la qualité, on a pris conscience, contrairement au début de la moitié du siècle, du XXe siècle, où l'école de Montpellier avait la suprématie sur le volet viticole, on a créé le diplôme en 1955 pour introduire la maîtrise technique œnologique, eh bien, à partir des années 80, on s'est aperçu qu'il fallait revenir au volet viticole et que là, on a fait de l'interventionnisme viticole avec deux technologies, on est pour ou contre, peu importe, mais enfin, je suis là pour les citer, et qui ont une influence considérable, qui sont les vendanges en verre et les feuillages. Je rappelle que le début des premiers qui ont été assis, alors nous l'avons fait en 1973 à Pétrus, on a introduit une technologie qui est systématique sur laquelle on n'a peut-être pas assez réfléchi et qui a une influence colossale sur les caractéristiques de la matière première et qu'il y a peu de chercheurs qui se sont intéressés à la chose, c'est un peu dommage. Mais il y a une cellule mondiale sur la maturation des fruits herbés qui préside un Américain de la Floride et ça les interpelle et je les rencontre souvent et c'est très intéressant. Alors, il y a également, mais les médias, on en parlera tout à l'heure, leur influence. Mais il faut parler également de l'influence de l'évolution climatique. Elle est là. Et moi, entre le début de ma carrière, 64 et aujourd'hui, on a une augmentation du degré alcoolique, par exemple, qui est entre 2,5 environ. On a la même chose en Californie. Ce qui veut dire que quand on parle du vin rouge de Bordeaux, en fonction de tous les aimants, toutes les étapes dont je vous ai parlé, s'y ajoute ce volet climatique, qui a des conséquences qui fait que la notion de vin rouge de Bordeaux, telle avec sa référence classique, était une grande référence dans les années 70, et le monde entier, eh bien, si on était la référence à vous, nous imiter, eh bien, aujourd'hui, nous, à Bordeaux, on a tendance à imiter ceux qui nous imitent depuis 30 ans vers la puissance alcooleuse et vers la sucrosité. Voilà, rapidement, alors, atteignons-nous des sommets avec le millésime 2009 et 2010 ? Point d'interrogation, ça pourrait être l'objet d'une discussion. Voilà brièvement les étapes dont je voulais vous parler. Merci Jean.
Merci pour cette question, elle est très complexe. Tout d'abord, je pense qu'il faut, pour parler de l'exportation, c'est qu'il ne faut pas oublier que le vin, dans la majorité des pays au monde, se consomme en dehors des repas. Donc c'est complètement atypique par rapport à notre culture latine. Donc ça, il faut avoir bien ça en tête. Concernant les marques de Bordeaux, ben, je crois qu'il en existe déjà quand même. Donc, on a quand même une marque qui s'appelle Mouton Cadet qui est commercialisée à travers tout le monde, donc c'est quand même une référence. Ensuite, existe chez différents metteurs en marché ce que je vais plus appeler des marques régionales qu'on va retrouver plus sur certains pays. Donc, tout de suite, pour aborder la question, est-ce qu'il y a un goût et des goûts, je pense que par rapport à l'intervention de Michel Roland l'année dernière, et l'image du Coca-Cola, c'est la réalité. Chaque consommateur, enfin chaque pays a des tendances différentes au niveau du goût. Pour revenir à l'hôtel, je pense que tout le monde connaît ce succès fulgurant en même pas 5 ans. Ce sont des gens qui ont commencé à zéro et qui sont à quasiment 20 millions de bouteilles. Donc, pour reprendre aussi les paroles de Jean-Claude, on est sur des vins qui sont plus chauds. Donc, c'est une tendance lourde, des vins qui sont lourds, où on a un caractère boisé, marqué, mais également sucré. Si on regarde aujourd'hui sur les 10 plus grands vins rouges vendus à travers le monde, ce sont essentiellement des vins de catégorie sans IGA aujourd'hui, donc exemple Yellowtail, vin d'Australie, donc avec du bois et du sucre. Donc ça plaît au consommateur qui n'a pas été éduqué comme nous dans un monde latin avec cette culture du vin. Prenez un anglo-saxon, un scandinave, un asiatique. C'est quelque chose qui consomme en dehors des repas, donc c'est facile. Donc pour revenir à Bordeaux, construire des marques, bien sûr, c'est possible, en sachant déjà qu'on a un paramètre sur lequel on ne peut pas jouer, bien évidemment, le sucre. Donc l'essentiel est le matériel végétal, récolter le raisin au bon moment adapter nos vinifications en fonction d'un profil produit souhaité. Et ensuite, on a le paramètre du bois. Donc, l'exemple du bois est très important parce que tout ce qui plaît le plus au niveau du goût des consommateurs, c'est le caractère vanille. Donc là, aujourd'hui, le travail qui a été effectué depuis 35 ans au niveau de l'élevage en barrique, c'était déjà des prémices, je pense. Et aujourd'hui, avec toute la panoplie des alternatives qu'on peut utiliser, que ce soit copo, domino ou stèves, il y a plein de choses encore à imaginer dans ce type de produit. Fini, pardon, sur les profils produits.
Déjà, je crois qu'il faudrait différer les produits qui ont une histoire, c'est-à-dire que déjà, ils véhiculent les valeurs, l'image. Et puis, celui qui veut s'adapter au marché. Bon, comme vous m'avez demandé de parler en tant qu'économiste, c'est ce que je n'ai pas trop fait ce matin, je crois qu'il y a des. Dans l'économie globalisée, il y a des. Pour restituer la réflexion de ce qu'on appelle les théories du commerce international, c'est-à-dire pourquoi il y a des échanges. Et cette histoire des théories du commerce international, elle a débuté à peu près au début du 19e siècle sur l'idée que c'était l'offre, parce qu'elle était différenciée, qui créait des flux. C'est une réalité comparative. En fait, on échange des différences. Bon, on est resté très longtemps sur ce paradigme tout simple. Lui, il fait mieux ça que moi je fais mieux ça que lui. Moi, je dis à mes étudiants qu'il n'y avait pas d'échange. Le baron de Normand buvait son vin, imbuvable, et le baron languedocien buvait un cidre imbuvable. Bon, c'est ça. Bon, la grande idée des économies du 19e siècle, c'est que finalement, quand on a des avantages concurrentiels, on crée des changes. Mais ensuite, au début du 20e siècle, on est resté sur les paradigmes de l'offre. On a dit qu'un pays qui a des avantages sur ses facteurs de production, sur la technologie, par exemple, l'Allemagne fabriquait des tas d'ingénieurs dans les années 1890, plus que tout le reste de l'Europe. Donc il y a des avantages comparatifs fabriqués du côté de l'offre. Et longtemps, on est resté sur ça. Et aujourd'hui, depuis quelques décennies, on s'aperçoit que le commerce international, c'est du commerce, on appelle ça un commerce de similarité. C'est-à-dire qu'en fait, on s'échange les mêmes choses avec les Allemands, avec les Italiens. Des vêtements, des voitures, des berlines qui font 9 chevaux et qui coûtent 25 000 euros, etc. Alors, justement, il y a quelqu'un qui est à Bordeaux, qui est professeur de l'Université de Genève, qui a développé parmi d'autres une théorie qui s'appelle la demande de différence. C'est-à-dire que les produits sont identiques, mais le consommateur veut du choix et en fait, il y a une demande qui s'appelle demande de variété. Donc, le producteur qui est plus spécifique, il s'inscrit dans cette logique de variété, il va essayer de trouver son marché. J'ai parlé à plusieurs reprises des vins bio et des vins nature. Il paraît que pour des raisons liées aux enzymes, les asiatiques ne supportent pas le souffle, ils peuvent boire beaucoup de vin quand il n'y a pas de souffle. Donc, du coup, il y a des tas de gens qui trouvent des marchés en Asie alors qu'ils ont des quantités qu'on vit assez élevées avant. Donc, là, c'est la demande de différence. Elle se retrouve sur les marchés. Ensuite, lorsqu'on a des quantités plus importantes à écouler, je pense qu'on peut créer de la variété aussi. Je pense que monsieur, c'est le premier producteur d'avoir de variété dans ces dames. Moi, ce que je dis, alors en abandonnant la casquette d'économie, c'est pour revenir à vos fautes, c'est qu'en plus de la demande de variété, il faut répondre à une demande sociale. Parce qu'en fait, le fait de dire est-ce que c'est l'offre qui crée la demande l'offre, c'est un faux problème, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'autre, c'est une interaction, bien évidemment. Celui de savoir ce qu'à un moment donné, sur le marché donné, joue le plus. Et je crois qu'aujourd'hui, la demande commande plutôt que l'offre, mais que les entreprises ont souvent plus de moyens d'information et parfois de réponse, de réactivité. Mais il y a la demande sociétale. Je ne sais pas si à Bordeaux, on la prend en compte autant qu'ailleurs. Je me permets de le remarquer, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer 4 ou 5 personnes qui m'ont dit je ne sais pas que c'est la même nature. Alors, quand on sait ce que ça représente en France, le fait qu'à Bordeaux, dans les milieux professionnels, les gens ne sachent pas ce que c'est, ça prouve que ici, voilà. Il y a une demande sociétale, il y a une demande de plaisir. Peut-être qu'elle est mise, récupérée par des gens qui ont plus de liberté que nous. On parlait de Yéroteil, de plaisir facile, finalement nous, on est avec. Nous, on préfère les sous de qualité aux marques. Moi, je crois que c'est important, mais c'est vrai que pour ceux qui ont beaucoup de produits à vendre, il y a la tentation de la marque et la demande d'identité. La France a vraiment une identité forte, et Bordeaux en particulier. Donc, ma réponse à la question, est-ce que c'est les produits qui créent sur le marché? Ma réponse, je crois que c'est non, mais qu'en même temps, on a beaucoup de marges de manœuvre et qu'il faut être capable d'anticiper, de comprendre, d'embrasser l'évolution de la société
c'est-à-dire en gros, être réactif et s'appuyer sur des valeurs. Voilà.
Oui, alors, il y a deux questions complètement différentes, puisque j'ai appartenu à une société où on vérifiait une quinzaine de produits entre Pomerol, Saint-Émilion et Français, puis une maison de négoce traditionnelle spécialisée en des vins de la Rive-Droite et des vins du Libournais, et qu'on échappait effectivement à la pression médiatique. Oh, quelle chance! Et donc, il y a tout un tas d'événements qui sont intervenus. Alors, je vais juste parler un tout petit peu de Vrac. Quand en 1964, j'arrive dans les établissements Jean-Pierre Mouès, en Vrac, il y avait trois vins, entre autres. Il y avait en Vrac, dans un chai du 19e qu'on élevait et qu'on vendait en Belgique essentiellement, Pétrus, Cheval Blanc, Jaune, 64. Donc ça fait rêver. Et qu'ensuite, ils avaient eu tout un tas de réglementations, et je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution de la mise en bouteille et de la propriété, ce qui fait que la notion de vrac entre ces premiers trucs dont je vous parlais tout à l'heure et aujourd'hui, il y a des sélections qui ont été faites à la propriété, c'est-à-dire que le niveau qualitatif des vracs qui étaient mis à notre disposition n'a rien à voir dans les années 60 et à la fin de ma carrière dans les années 2000. Donc la notion d'assemblage n'a rien à voir par rapport à ce que nous vivions, plus la notion de traçabilité, plus des ajouts qui pouvaient venir de l'extérieur éventuellement, c'était dans les mœurs, et ça nous permettait de livrer des vins que l'on pouvait façonner en fonction de l'intention que pouvaient avoir les responsables d'une société. Donc les temps ont complètement changé par rapport à ce que je dis. Ensuite, en ce qui concerne les crus, le vin est une image. Et cette image, elle est très variable en fonction des interlocuteurs, en fonction du temps, en fonction des circonstances, donc elle est mobile. Mais pour moi, elle est assez insaisissable. Alors, Nicolas, tu sais que j'adore la tendresse et que j'adore faire des 20 ans, n'est-ce pas, mon petit Alexandre, et que j'ai fait les vins que j'aimais, mais c'est bien beau de faire les vins que l'on aime, parce que c'est les vins qu'aimait Jean-Pierre Mouet, qui était le responsable de la société, donc j'ai fait les vins que j'aimais, qu'il aimait, mais est-ce que nos interlocuteurs, nos acheteurs les aimaient? Et bien, il m'a dit oui, et qu'à la fin de ma carrière, il y avait des suppliques, des lettres qui étaient des suppliques, continuer à faire des vins que l'on aime et que l'on boit, qui nous apportent du plaisir, surtout ne vous laissez pas aller à des tentations modernistes et standardistes. Donc on trouve tous les genres, mais à condition qu'on soit dans une réalité économique, qu'on ait des interlocuteurs et que des gens aient envie de continuer à boire ce style de vin. Donc c'est un peu la chance des grands vins. Alors un grand vin, c'est la notion de terroir, et je vais juste vous l'introduire en deux mots, cette notion de terroir. C'est un terme qui est galvaudé, mais la notion de terroir est une notion identitaire. C'est un goût, c'est une caractéristique, c'est une typicité. Alors le mot terroir est un mot français qui apparaît pour la première fois au XIIIe siècle. Je vous rappelle que c'est la contraction du mot territoire, donc c'est un espace avec des limites. Ensuite, il prend son plein essor au XVIe siècle, et pour deux raisons. C'est que les suffixes en voie définissent des fonctions ou des outils. Ici, c'est un parloir. Si on déguste, c'est un dégustoir. Si on mange, c'est un réfectoire. Et si on dort, il n'en est pas question, c'est un dortoir. Et les outils, le pressoir, les rafloirs, l'entonnoir, le tiroir, le mouchoir, des outils ou des fonctions. Alors, je rappelle que le tiroir, c'est la terre que cultive l'homme. C'est une définition qui est basique. Mais au XVIe siècle, il y a le premier grand agronome, qui est Olivier de Serres, qui est le conseiller du brave roi Sully, le ministre de la Culture du roi Henri IV. Il donne la première définition du tiroir. Je ne sais pas si Kiss est là, s'il est encore là, Kiss. On est en train de se creuser la cervelle, mais en trois mots, il donne la définition du terroir qui est la suivante. Il dit que c'est l'expression de l'air, de la terre et d'un complan. Alors l'air, c'est le climat, la terre, c'est le sol avec toutes ses nuances, et un complan, pourquoi pas une plante? Parce que le complan, c'est l'homme qui cultive la plante. En trois mots, on a les quatre facteurs qui introduisent la notion de terroir. Or, notre rôle dans les grands crus, c'est d'exprimer cette originalité, ce goût de vin qui sont entre parenthèses considérés comme des vins d'exception, qui doivent raconter l'histoire de leur pays et être des ambassadeurs. Donc notre mission, c'est de respecter cette valeur, cette identité, ce goût particulier, comme le chef d'orchestre, s'il n'est pas prétentieux, il doit être humble, c'est notre métier, on doit faire acte d'humilité. Quand on joue du Schubert, du Brahms, du Chopin, on respecte l'âme du compositeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sur les agences de notation, alors les agences de notation, bon, on ne peut ne pas parler de Bob Parker qui est arrivé, premier millésime qui débute, c'est le 82, il a été d'une influence colossale. Alors, chacun a son propre goût. Alors on dit, vous savez, comme c'est de l'autre, chacun a son propre mauvais goût, bien entendu, et qu'il aime un style de vin, c'est son droit, c'est sa liberté, moi je la respecte totalement, et que s'il acquiert une puissance, ben, c'est pas de sa faute, c'est la faute des professionnels que nous sommes, nous lui avons donné un pouvoir, c'est qu'on n'a pas fait notre métier quelque part, et qu'on sait le style de vin, et qu'à partir de là, si on a une notation très importante, eh bien, on peut tirer le jackpot. Alors, il y a des trucs qui peuvent se permettre d'échapper à son influence, mais il y en a d'autres qui l'a servi d'une manière remarquable et qui ont eu une réussite commerciale grâce à lui, qui est évidente, et ça, on ne peut pas le nier. Donc, il y a lui, il y a eu le One Spectator, il y a, sur le plan national, il y a le Guide Hachette, qui quand même a été longtemps une référence, je ne sais pas si elle dure toujours, mais en nombre d'exemplaires, il était présent, et qu'il y a une médiatisation, bon, il y a Jacques Dupont, il y a Bétane, etc., il y a des journalistes, donc, qui donnent une influence du marché et de la notoriété des vins. Et juste, ça me permet juste d'introduire la notion de dégustation, c'est que juste en 80, on goûtait, on ne dégustait pas le vin. Alors aujourd'hui, on déguste plus que l'on boit, surtout en France, et la dégustation a été prise en otage. Et que tous ces chroniqueurs, tous ces critiques, la plupart d'entre eux, mettent 5 secondes pour déguster un vin, et que dans la panoplie, vous savez que le goût de sucré apparaît au bout de 2 ou 3 secondes, que le salé acide, bon, il est dans l'intermédiaire, on finit sur l'amertume, c'est certainement le goût le plus noble qui puisse exister, mais le plus culturel, parce que c'est le plus difficile à intégrer et à comprendre. C'est un, vous savez que, juste une petite parenthèse, le produit qui, lorsqu'on fait un commentaire de dégustation, repose sur l'amertume dans sa finale, dans sa construction, dans son expression aromatique florale, c'est le miel. Mais sans amertume, on ne sent pas la suffisance de 5%. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a compris la méthodologie de la dégustation telle qu'elle est pratiquée par certains critiques, eh bien, on occulte la finale, et c'est ce qui fait, je crois, la caractéristique, ce qui fait, je crois, la qualité de nos grands vins de Bordeaux, qui sont des vins structurés, tanniques, et dont la longueur doit être appréciée dans un contexte bien particulier, que malheureusement, on ne prend pas le temps de faire. Alors.
Pour revenir à la question de Nicolas au niveau des contraintes, moi j'ai la chance de travailler dans un groupe avec la possibilité d'avoir des métiers différents. Donc au niveau de l'entreprise, nous sommes propriétaires de vignobles, nous achetons du raisin. Donc là, nous pouvons, comme le rappelait Jean-Claude par rapport à la création de chaque année de Pétrus, toute équipe de œnologues ont la possibilité de créer des nouveaux produits, de respecter le terroir, tout en ayant les seules contraintes qu'on a dans ces conditions-là, ce sont simplement des contraintes économiques. Donc, comme tout le monde, comme chaque exploitation partout dans le monde. Donc ça, c'est pas un grand plaisir, c'est pas une contrainte, bien au contraire. Par contre, après, si je reprends la casquette d'œnologue, acheteur, sourceur au niveau du négoce, la plus grande pression depuis des années, c'est surtout au niveau des clients export, c'est que le raisonnement est complètement différent. Les distributeurs raisonnent avec un positionnement du produit, quelle que soit la catégorie du vin, un positionnement prix de vente consommateur. Et derrière, il faut déduire et déduire leur marge, et derrière, ils nous laissent évidemment qu'est-ce qui reste. Donc, on est obligé de trouver les produits en adéquation avec le prix qu'il est possible d'avoir comme liquide dans la bouteille, avec aussi des demandes, évidemment, avec des gens, si je prends le marché anglais, beaucoup de gens qui sont master of wines au niveau des équipes achats en matière, donc qui connaissent le produit, donc ils sont très pointus et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les profils de produits. Et ça, c'est très compliqué au niveau des contraintes.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi le vin nature? Alors, pour leurs adeptes, ce sont des vins sans intrants. Alors, vous savez tous que le destin naturel d'un moût de raisin, c'est de faire du vinaigre. Et que tout l'art du maître de chez, du vinificateur et de l'éleveur, c'est d'intervenir adéquat pour éviter que ça arrive. Alors, après, il y a des frontières, c'est l'histoire des frontières. Hein. Parce qu'on est, ouais, où commence le vinaigre, où s'arrête le vin, vraiment. Voilà, donc les vins nature, c'est ça. Moi, récemment, je peux parler d'une expérience récente où j'ai eu l'occasion de déguster un Riesling alsacien exerçant deux vinavis. Il y avait 1300 bouteilles de la cuvée, donc ça donne déjà la dimension. Donc les vins nature sont pour moi, ils ont tout à fait leur place. Il y a un marché pour ça, mais ce n'est pas ce qui va sauver les 50 millions d'hectos produits en France ou 45 en fonction des années. Donc oui, mais ça reste un marché anecdotique. C'est l'exception qu'on peut présenter comme la règle. Voilà, ça c'est un avis personnel aussi. Donc ce vin était extraordinaire à l'ouverture. Quand on débouchait la bouteille, il était d'un fruit éclatant. Et au bout de 5 minutes, ça sentait la pomme verte, ça sentait le cidre. Forcément, oxydation de l'éthanol en éthanol, pour moi, l'éthanol n'est pas une expression du terroir. Donc c'est là où il faudra que je discute un jour avec les défenseurs des vins naturels. Il faudra qu'on explique comment un Riesling, si. Et pourtant, je suis franc-comtois un petit peu. Si à Château-Chalon, l'éthanol est une expression du terroir, un Riesling alsacien, j'ai du mal. Voilà, donc c'était un vin qui était excellent, mais les cinq premières minutes. Ce n'est pas les cinq dernières minutes comme celle de Ferry Télé, mais c'était les cinq premières minutes.
Mais les vins naturels, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais par contre, toute la manière d'aborder l'agriculture biologique, et on peut y introduire la biodynamie si l'on veut, est une base de réflexion qui doit être incontournable, parce qu'avec le Grenelle de l'agriculture, le Grenelle de l'environnement, ben, il faut se donner des outils, des moyens qui nous permettront de répondre à une réglementation qui sera de plus en plus difficile. Et je suis rentré hier soir de Bourgogne, et j'ai été dans des grands crus qui sont des grands adeptes de la viticulture biologique ou de la biodynamie. Ils ont des moyens économiques qui leur permettent d'utiliser ces méthodes. Et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Alors moi, à titre personnel, vous savez, je suis un viticulteur à Iroulégui, j'ai fait 6 ans de biodynamie, et ma femme n'a pas dit de maîtresse, elle m'avait accordé celle-ci, mais ça m'a coûté très cher. Mais c'est intéressant, c'est une réflexion intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des approches que l'on peut utiliser, mais on ne peut pas être extrémiste. C'est tout ce que je peux dire, parce que là, c'est un débat qui est trop compliqué. Mais c'est une voie de réflexion qui me paraît incontournable.
Et moi, je voudrais rajouter qu'au niveau de la production du raisin, production du vin, je crois qu'il faut déjà réfléchir à tout ce qu'on veut faire en fonction des connaissances que l'on a. Et il y a une démarche qui est très intéressante, que vous connaissez tous, c'est sortir avec tous sur l'agriculture raisonnée. Et ensuite, partir dans de la biodynamie, dans des choses comme ça, c'est intellectuellement très intéressant. Mais il y a le coût économique à ne pas oublier, qui est toujours important. Est-ce qu'on peut valoriser derrière ce type de culture? C'est vrai pour des petites exploitations, des crues renommées, mais sur des gros volumes, ce n'est pas encore évident.